1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions. 500 ans de réforme. Protestants 2017, vivre la fraternité.
Les 95 thèses. Cette émission vous est proposée par Radio Arc-en-Ciel.
Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Lepelletier. Salut Jean-Philippe.
Salut.
Tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler des 95 thèses de Luther. C'est la première partie de deux émissions sur ces fameuses 95 thèses. Dans quel contexte on est à l'époque de ces 95 thèses? On parle de l'année 1517, donc il y a 500 ans maintenant.
Bah déjà, c'est un contexte assez différent d'aujourd'hui parce que c'est déjà l'Allemagne de l'époque, enfin le Saint-Empire romain germanique, qui est une espèce de grosse entité très morcelée, divisée en plein de principautés, de villes libres, de petits territoires. Et il y a cet empereur qui s'appelle Charles Quint, qui est assez connu, qui essaye justement de susciter une unité à cet ensemble diversifié. Il a à cœur, quelque part, l'unité du royaume de l'époque, quoi. Donc c'est déjà un ensemble politique qui n'est pas le nôtre. Et précisément, les 95 thèses sont sorties à Wittemberg, qui est une petite ville à l'époque de 2000 habitants, qui est un peu... le fin fond du monde, hein, pour ne pas dire autre chose. C'est aussi une époque de changements économiques et sociaux, un développement économique avec notamment le développement des mines et le développement aussi d'une espèce de petite bourgeoisie, de petits entrepreneurs. Et Luther va grandir justement dans ce milieu-là. Son père sera minier, paysan devenu minier, qui va un peu prospérer là-dedans. Et donc c'est aussi une époque de changement économique et social, et c'est aussi une époque de mutation intellectuelle. Ça, c'est très important. C'est que l'apparition de l'humanisme, progressivement, on découvre un nouveau monde, en fait, avec l'Amérique. Les ouvrages, avec la chute de Constantinople, on redécouvre des ouvrages grecs anciens. On peut du coup revenir aux sources littéraires.
Qu'est-ce que sont ces 95 thèses? Parce que c'est flou quand on dit 95 thèses. Et qu'est-ce qu'elles contiennent au juste? D'abord, qu'est-ce que sont ces 95 thèses?
Alors en fait, c'est à l'époque, Luther a découvert quelques abus dans l'église de son époque. Et il s'est dit, tiens, il y a des problèmes. Et alors, comme ça se faisait à l'époque, Luther a rédigé des thèses. Ça veut dire, quelque part, des idées marquantes qu'on défendait à l'époque dans les milieux académiques, donc universitaires. Donc Luther était un professeur d'université, et donc c'est une démarche universitaire avant tout d'abord. Il rédige des thèses pour ensuite créer un débat. Et donc c'est d'abord une démarche de vouloir rentrer en discussion qui forge ses 95 thèses. Donc Luther a rédigé ses 95 thèses, et il les aurait affichées ou pas sur la porte de l'église de Wittemberg pour quelque part les rendre publiques. En tout cas, il les a envoyées, ça on est sûr, à des gens qui les ont ensuite diffusées, traduites en allemand et ensuite imprimées, ce qui fait que ça a eu un poids considérable. Mais à la base, c'est surtout pour provoquer une question sur une thématique particulière qui est celle des indulgences.
Justement, dans ces 95 thèses, quels sont les thèmes un peu qui va aborder et qui va développer?
D'abord, il y a le thème des indulgences sur lequel je vais peut-être revenir un petit peu ensuite, mais l'idée centrale, c'est celle de quelque part que le trésor de l'Église, c'est le Christ, et que peu importe nos actions, peu importe ce qu'on regrette ou pas, c'est en Christ qu'on peut se confier, dans le Christ qu'on peut se confier quelque part, et qui est ça qui est le message un peu central pour moi des 95 thèses, même s'il y a beaucoup de thématiques, 95 thèses, 95 idées, quelque part c'est très riche. Et beaucoup en fait traitent justement de cette question des indulgences, mais toujours pour dire qu'au final, la chose centrale c'est le Christ qui est le trésor de l'Église et qui doit être valorisé plus que n'importe quoi en fait.
C'est dans la vie de Luther, dans son combat entre guillemets, même on dit souvent, et c'est vrai, c'était pas forcément un révolutionnaire, hein, même si ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, ça a provoqué de grands changements, mais c'était pas forcément sa volonté propre,
non, hein,
tu l'as
ouais.
dit, c'était une dimension académique. Dans sa vie, etc., c'est suite à la lecture d'un livre de la Bible qu'on appelle la lettre de Paul aux Romains, que Luther va comprendre le message de Dieu. Déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est ce livre de Paul aux Romains, pour peut-être à ceux que ça dit rien, et quel est ce message qui est contenu dans ce livre de la Bible?
Alors bah, c'est déjà un livre qui a plus de 2000, enfin presque 2000 ans maintenant, donc c'est pas tout jeune non plus, mais c'est un texte qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Paul, qui était, on appelle, un apôtre dans l'église ancienne, donc un personnage important quand même s'il était contesté, qui a du coup écrit une lettre à l'église de Rome, qui était une église un peu éparpillée, avec des petites communautés qui se réunissaient dans les maisons, et donc Paul se dit, tiens, j'aimerais bien rencontrer ces gens, donc avant ça, je vais leur écrire. Et ce qu'il leur écrit, c'est une lettre assez magistrale qui résume en fait toute sa théologie personnelle, donc tout ce qu'il croit vis-à-vis de Dieu, et qui du coup défend, qui un peu, ouais, développe un peu différentes idées aussi sur la foi, et notamment sur, sur le, qu'on appelle le péché, la grâce dans le christianisme, sur toutes ces questions aussi de la libération du chrétien qui peut vivre libre, et un peu différentes thématiques qui ensuite permettent de dire bah voilà comment moi, à la lumière de ma foi, je vis. Qui du coup vont, un texte qui va beaucoup marquer Luther, notamment ce verset qui dit que le juste vivra par la foi. À savoir que pour que je puisse être aimé par Dieu, eh ben c'est pas tout ce que je peux faire qui compte, mais la confiance que je place en lui. C'est d'abord, j'ai confiance en Dieu, et c'est ça qui est premier. C'est pas toutes les belles choses que je peux faire ou non, quoi. En fait, ce que je fais ou ce que je fais pas n'a pas d'importance pour Dieu. Ce qui est important, c'est qu'il m'aime déjà, peu importe ce que j'ai fait. Et c'est ça qui va vraiment révolutionner Luther. Il va parler de justice passive de Dieu. À savoir qu'on dit parfois, la justice, quand on prend la justice en tant que telle, c'est t'as fait quelque chose de bien, quelque chose de mal, donc t'es récompensé ou t'es puni. C'est justice active pour Luther. Et Luther va dire, non, la justice de Dieu est passive. À savoir que peu importe ce que je fais ou ce que je fais pas, j'ai déjà reçu une récompense. Et c'est ça qui va vraiment révolutionner le cœur de Luther en lisant l'Épître aux Romains.
Un des thèmes forts de cette thèse, ce sont les indulgences. Alors ça nous dit peut-être vaguement quelque chose. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et pourquoi Luther va combattre, entre guillemets, contre ce thème des indulgences?
À l'époque, c'était l'idée que lorsqu'on fait quelque chose de mal, on va dire, à l'époque, on comprenait le péché vraiment comme des petites actions mauvaises, et du coup, dès qu'on fait quelque chose qui est l'ordre de ce péché, et ben, il fallait du coup payer sa faute, et non seulement payer sa faute, mais aussi payer une peine par rapport à cette faute. C'est un peu comme à l'époque, dans la société féodale, notamment, lorsque un serf avait un seigneur, et ben si par exemple il commettait un outrage contre son seigneur, il fallait non seulement qu'il répare l'outrage, mais en plus qu'il répare l'honneur bafoué de son seigneur. Et c'est un peu cette idée-là, je trouve, derrière les indulgences, que c'est que non seulement il faut réparer la faute qu'on a commise vis-à-vis de Dieu, mais en plus on a souillé l'honneur de Dieu, et du coup il faut réparer cet honneur. Et pour ça, donc, il faut faire une forme de pénitence, donc un travail sur soi qui permet de réparer cette peine, et notamment cette peine qui peut s'étendre jusque après notre mort dans ce qu'on appelait à l'époque le purgatoire, et qu'on appelle encore comme ça d'ailleurs, qui est un espèce de lieu où on attend d'entrer au ciel quelque part. On a fait tant et tant de péchés, donc on doit attendre tant et tant de purgatoire. Et donc c'est pour des gens un peu moyens, comme tout le monde en fait, qui sont pas non plus des saints, mais qui sont pas non plus des horribles personnages. On a dit, on va pas non plus les envoyer en enfer, parce que ils sont pas si horribles que ça, mais en même temps ils sont pas saints. Donc l'église catholique de l'époque a un peu forgé ce lieu qui est le purgatoire, qui est un peu le troisième lieu où les âmes attendent avant de venir au ciel quelque part. Et donc les indulgences servaient à réduire ce temps au purgatoire.
Donc en fait, concrètement, les indulgences, faut le dire, c'est de l'argent aussi qu'on donnait, et c'est ça qui servait de réduire ce temps. En fait, il y avait un aspect économique clair en fait derrière.
À l'époque de Luther, oui. Avant, c'était pas toujours le cas, mais de toute façon, il faut payer Saint-Pierre de Rome qui est en train d'être construite, et du coup, il faut lever
la
des
basilique,
campagnes.
La basilique
de Rome, ouais, effectivement. Donc il faut lever des fonds pour payer cette église-là, et le meilleur moyen, c'est de faire payer des indulgences, quoi. Donc il y a des grosses campagnes d'indulgences assez où en fait on invite les gens à donner n'importe quoi pour pouvoir ensuite quelque part avoir une indulgence plénière qui les emmène directement vers le ciel. Et donc ça, Luther, ça va lui poser problème, parce qu'il va dire, mais non pas qu'il soit contre les indulgences qu'on écrivait les 95 thèses, mais il va dire le plus important, c'est pas justement de payer quelque chose, mais c'est d'avoir un cœur pénitent, c'est-à-dire de faire un travail sur soi qui est une demande de pardon vis-à-vis de Dieu. Et Luther dira, Quelque part, ça suffit de demander pardon à Dieu et de se confier au Christ. Et donc, toute cette idée que l'Église a un trésor de souffrance dont elle peut faire bénéficier les gens, Luther va dire, est-ce que c'est vraiment ça l'Évangile ? Il va pas non plus être dans une démarche vindicative de dire, voilà, maintenant, il faut tout faire péter. Il va poser des questions, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça ? Il dit, est-ce que le vrai trésor de l'Église, ce serait pas plutôt le Christ en qui on peut se confier ? Ouais. Et en fait, l'important, c'est d'avoir ce cœur qui cherche à regretter la faute, qui permet du coup d'être pardonné, plutôt que de vouloir faire des choses ou de devoir payer quelque chose pour pouvoir recevoir ça. Il y a quelque part, on peut acheter toutes les indulgences qu'on veut, si on n'a pas ce cœur qui regrette notre faute, ben à quoi ça sert l'indulgence ? Parce qu'en fait, c'est ça qui compte, c'est pas l'indulgence.
On reviendra sur ce thème des indulgences dans une prochaine émission. En quoi, toi, le message de Luther, un peu traduit par ses 95 thèses, mais aussi plus largement, puisque Luther, c'est pas que les 95 thèses, en quoi son combat, en quoi ce qu'il voulait dire, en quoi le message de l'Évangile aussi, en quoi tout ça, ça te rejoint, toi, aujourd'hui ?
En tant que croyant, déjà, c'est un message qui me parle beaucoup, parce que c'est justement ce... Pour Luther, la foi, c'est le Christ. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est que, il s'agit de faire confiance au Christ. Et c'est pas simplement faire ceci, faire cela. Et du coup, est-ce que j'en fais assez pour plaire à Dieu ? Mais c'est toujours simplement dire, j'ai confiance en Dieu à travers Jésus-Christ, qui est quelque part, pour moi, vraiment le cœur de ma foi personnelle. Et aussi en Luther, je vois quelqu'un qui est pas parfait, justement. Et c'est pas un saint, Luther. Il a fait des choses très bien et très courageuses. Et en même temps, il a dit aussi quelques conneries, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Je veux dire, ses propos en fin de vie sur les Juifs sont assez difficiles. Il était parfois non plus, pas non plus parfait, quoi. Il a soutenu des massacres populaires, hein, la guerre des paysans, qui était aussi un passage difficile, où les paysans ont voulu se révolter contre le prince, et Luther a dit non, mais on se révolte pas comme ça, donc massacrez-les, quoi. Donc c'est pas un personnage parfait, et pourtant c'est un personnage très courageux. C'était un homme qui, au nom de sa foi et de ses convictions personnelles, de sa conscience, a osé quelque part s'opposer à l'empire de l'époque, quoi. C'est quelque chose d'absolument énorme qu'on a parfois du mal à réaliser aujourd'hui. Et donc, pour moi, c'est quelque part, c'est pas un modèle de foi, mais c'est un frère ou quelqu'un qui, je vois qu'il n'est pas parfait. Et en même temps, c'est quelqu'un qui m'inspire profondément. Et du coup, moi, sa personne me parle aussi beaucoup, en plus de sa théologie, enfin, de ce qu'il croit, qui aussi dans lequel je me reconnais beaucoup personnellement.
1517, 95 thèses. 2017, 95 émissions, 500 ans de réforme, protestants 2017, vivre la fraternité.
Cette émission vous a été proposée par Radio Arc-en-Ciel à Strasbourg.